L'univers du livre électronique, cette réflexion autour de l'interopérabilité qui permet, vous, comme vous l'avez vu, de pouvoir ensuite brasser des contenus qui viennent de différentes sources, ce qui jusqu'à présent était impossible. Alors, ce que je propose, c'est de prendre les questions, si jamais il y en a, après la présentation de Benoît, qui va revenir sur un exemple de confection de manuel. Et à ce moment-là, si jamais vous avez des questions pour David, il y répondra.
Ça va aller. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité, convié ou proposé d'intervenir. J'ai la lourde tâche de conclure cette journée, ce qui fait que, d'une part, une bonne partie de ce que je voulais vous dire a déjà été dit, ce qui est le lot de tous les gens qui finissent les journées, et d'autre part, la lourde tâche également de ne pas vous faire regretter d'être resté jusqu'à la fin, ce qui est également un deuxième exercice difficile. Donc je vais vous parler de deux exemples de manuels universitaires numériques qui m'ont semblé tout à fait intéressants. Donc la genèse de cette présentation, c'est la venue à Lyon, il y a quelques mois, d'un universitaire américain qui s'appelle Robert Gluchko, dans le cadre de la semaine sur l'architecture de l'information. Et dans ce cadre-là, il est venu faire une intervention également à l'ENSIB et présenter un ouvrage dont je vais vous parler ensuite, qui s'appelle « Discipline of Organizing ». C'est un ouvrage autour de l'architecture de l'information qui peut intéresser grandement le monde des bibliothèques. Ça parle de ranger des choses, donc ça peut intéresser une bonne partie de gens dans la salle. Ce qui m'a interpellé également, c'est l'objet en lui-même, la nature de l'objet, sa genèse et les questionnements qui étaient portés autour de ça. Donc, les manuels universitaires numériques, alors c'est une question ancienne, ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un truc qui m'a occupé déjà pendant le temps de ma thèse et puis qui m'a occupé encore après et qui continue de m'occuper. Avec une évolution assez lente, très lente de ces mécanismes. Il y a eu quelques repères, la création des journées autour du livre électronique de Couperin, la cellule e-book, le rapport et l'ouvrage de Sophie Barluet autour des manuels universitaires en SHS. J'aime bien ce graphique parce qu'à chaque fois on le donne pour la partie. Donc vous connaissez. Je pense que tout ce graphique, c'est la croissance des dépenses. C'est un graphique qui vient de l'Association américaine des bibliothèques de recherche. Et donc, on le présente en général pour les deux courbes bleues qui montrent la croissance énorme des coûts pour les revues et les publications. Et en fait, ce dont je vais vous parler, c'est la courbe tout en bas. C'est celle, les dépenses n'augmentent pas, voire elles baissent. Et c'est un objet éditorial et économique qui a connu peu de bouleversements. Alors, un certain nombre de nouveaux développements interviennent aujourd'hui autour de ça. Le passage au format numérique pour le manuel universitaire a questionné un certain nombre de choses que je ne vais pas reprendre ici, donc qui ont déjà été largement traitées. Les questions de diffusion, les questions de libre accès, depuis ce matin, on en parle, de savoir comment à la fois replacer le manuel ou le livre dans le monde académique, d'un point de vue technique, d'un point de vue diffusion, d'un point de vue pratique, d'un point de vue usage. C'est des questions qui sont anciennes qui sont nouvelles pour les manuels, mais qui ont déjà été largement traitées pour les revues. Ce décalage-là fait que, comme dans d'autres secteurs, on peut observer un peu ce qui s'est passé pour les revues et voir les questionnements, essayer de transposer ces questionnements à la forme éditoriale du manuel. Il me semble qu'aujourd'hui, on a quelque chose dans les deux exemples que je vais vous montrer, d'un petit peu particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas le support qui entraîne un changement, c'est la forme éditoriale prise par ce manuel qui pose un certain nombre de questions nouvelles. Alors, de nouvelles problématiques. D'une part, et ça a été dit déjà ce matin, ça a été longuement évoqué ce matin, la question des auteurs. Donc, je vous disais, de toute façon, mon intervention commencera une phrase sur deux par « comme ça a déjà été dit ». Comme ça a déjà été dit, la question des auteurs se pose. Alors, non, d'une part, en termes de statut, et la question du rapport économique des universitaires à leur production éditoriale est un élément clé. L'exemple qui était évoqué ce matin à propos de Harvard est un cas. J'aimerais bien voir ce type d'initiative se produire dans une université française pour voir le genre de réaction qu'on pourrait avoir. C'est un questionnement, enfin voilà, c'est une question qui n'est pas du tout tranchée, de savoir à qui appartiennent ces publications, mais également l'aspect de l'écriture collaborative. Une bonne partie des projets éditoriaux, grâce aux outils numériques dont on dispose, peuvent s'incarner dans une forme collaborative plus ou moins importante, plus ou moins proche de d'une écriture collaborative traditionnelle, mais en tout cas, on a cette possibilité-là. Je vais y revenir ensuite. La question des éditeurs qui a encore une fois déjà été posée autour de la désintermédiation, oui, non, des éditeurs. Alors c'est une question qui s'est posée depuis qu'on fait des contenus au format numérique, de savoir qui était désintermédié, réintermédié. Le ratio qui était donné ce matin entre le chiffre d'affaires des GAFA et celui de l'édition est un bon point de repère, en sachant que cette image des quatre cavaliers de l'apocalypse, elle est également reprise dans des interventions dans une conférence qui s'appelle Digital Book World. Cette année, il y a eu une intervention exactement autour de ces questions-là, et notamment du transfert de valeur entre le créateur de contenu et les plateformes d'intermédiation. Évidemment, les bibliothèques, vous savez, enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille à l'ENSIB, et voilà, à l'ENSIB, forcément, la question bibliothèque se pose à un moment ou à un autre. Notamment sur la place de la bibliothèque dans l'intermédiation des contenus pour l'enseignement. Aujourd'hui, et dans les travaux de l'Observatoire numérique de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qu'on a beaucoup identifié, assez clairement identifié. Il y a peu de contenus numériques présents sur les ENT qui viennent des bibliothèques universitaires. C'est des contenus qui sont déposés par le prof, il upload ce qu'il a envie d'uploader, il le pose sur son espace, mais le lien entre l'ENT et la BU est extrêmement ténu. Et enfin, le dernier point, c'est les enseignants. Quand même, les manuels universitaires, ils sont produits par des enseignants et pour des enseignants, a priori. C'est avec une frontière qui devient de plus en plus compliquée à définir entre ce qu'est un manuel universitaire enrichi, dans lequel on aurait énormément de contenus divers et variés, des quiz, des vidéos, tout ce que vous voulez, une forme d'interactivité, et un MOOC, qui dans certains cas sont une forme un petit peu du manuel. Si vous regardez, si vous allez sur Fun, vous suivez quelques MOOC, vous verrez qu'il y a des MOOC qui ressemblent quand même beaucoup à un bouquin avec des vidéos, quoi. Et on a certains ouvrages manuels universitaires numériques qui ressemblent beaucoup à un bouquin avec des vidéos de la même façon. Donc, la question, c'est plutôt de savoir à quoi sert le prof là-dedans. Comment est-ce qu'il intègre des contenus de ce type-là, enrichis, interactifs, dans sa pratique d'enseignement ? Alors, le premier exemple dont je vais vous parler, c'est de Discipline of Organizing, dont je vous en parlais, c'est ce que je vous évoquais au tout début. C'est un bouquin qui est initialement paru aux presses du MIT en 2013, donc normal, on va dire classique, un projet éditorial mené par un universitaire. Le livre est écrit, il est... Alors, pour en avoir discuté avec Robert Gluschko, il est fini. C'est-à-dire, lui a repris un certain nombre de choses et ensuite il le transmet à MIT Press pour l'édition. Et là, se passe un délai qui ne s'explique pas de quelques mois pendant lequel il se demande bien ce qui se passe, puisque, en fait, lui pensait avoir fourni un fichier avec tout ce qu'il y avait. Alors, évidemment, il n'est pas éditeur et donc il y a évidemment le travail de MIT pour en faire quelque chose. Mais c'est un bouquin standard que vous pouvez acheter sur Amazon, que vous pouvez également acheter sur e-bookstore ou sur n'importe quelle autre structure. Ça vous coûtera, je sais pas, $20 ou $40 selon le format que vous allez acheter. Et c'est un ouvrage autour duquel se crée une forme de communauté d'enseignants qui, dans le cadre de leurs cours, réutilisent le bouquin et construisent autour de ça de nouvelles études de cas, adaptées à leurs environnements, à leur public, à leurs étudiants. Et donc, on commence à voir émerger une somme de contenus annexe à ce manuel, construit d'une façon collaborative et que chacun peut reprendre et réutiliser dans le cadre de son propre cours. Il y a plusieurs éditions de l'ouvrage, pas comme d'habitude, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez classique. Et arrive un moment où on se heurte à... l'auteur se heurte à une tension entre des nouvelles éditions qui approfondissent de plus en plus une problématique et la forme de l'ouvrage papier, ou même numérique, mais homothétique, qui l'amène à une solution qui est de construire deux types d'ouvrages. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième édition, vous avez deux types d'ouvrages, ça scinde en deux. D'une part, les notions au cœur du sujet qui traite, et d'autre part, une forme approfondie de ces notions-là. avec évidemment le caractère non satisfaisant d'une part, il faut acheter deux bouquins, ce qui est non satisfaisant du point de vue de l'universitaire, pas du MIT Press j'imagine, mais il faut acheter deux bouquins, et d'autre part, si on veut faire un lien entre les deux, on voit qu'on atteint vite les limites. Le deuxième écueil, c'est que cette question de l'organisation des objets, des savoirs, des connaissances, c'est une problématique qui est par nature interdisciplinaire, comme de plus en plus de problématiques universitaires sont par nature interdisciplinaires. Si on veut les appréhender dans un temps long, comme ça a été dit ce matin, et vraiment dans la durée, c'est quelque chose qui doit convoquer plusieurs disciplines, et donc on a une problématique d'écriture interdisciplinaire qui se pose. Si j'écris un bouquin autour de ces questions-là, orienté sciences de l'info, et que je convoque des éléments de sciences politiques, d'économie, d'ergonomie, de sociologie ou d'histoire, à qui ça va s'adresser ? Aux historiens, ils vont dire « non, c'est juste un affleurement d'une problématique qu'on pourrait creuser ». À des gens qui ont une problématique métier, mais dans laquelle on va se retrouver avec une limite de profondeur, et donc cette matrice, si on veut, de l'interdisciplinarité d'une part et de l'approfondissement d'autre part, rend compliquée la création d'un ouvrage tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. Du coup, la solution qui est proposée, qui a été mise en œuvre, c'est un ouvrage numérique qui intègre un certain nombre de fonctionnalités. D'une part, un premier champ, c'est des fonctionnalités de structuration dynamique du bouquin, avec, via un tagging des chapitres, parties de chapitres, la possibilité de reconstruire dynamiquement une vision de l'ouvrage qui correspond à une discipline, par exemple. C'est-à-dire en disant, moi je veux, sur cette question discipline of organizing, ne voir, dans un premier temps, que les aspects juridiques. Et donc, avec ce tagging, la proposition, alors ça pose des tas de questionnements. Est-ce qu'il y a une cohérence ? Est-ce que ça s'enchaîne ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de structure ? Une deuxième possibilité, la définition de plusieurs niveaux d'approfondissement possible des contenus. Avec des contenus cœurs qui sont au centre évidemment de l'exercice, des contenus qui ne sont pas au cœur mais qui constituent une forme d'approfondissement de ces notions centrales, et voir aussi des notes de bas de page, des renvois à d'autres ressources. On a d'une part cette structuration dans ce sens, un approfondissement, mais également une structuration disciplinaire. Dans cet ouvrage, j'ai des approches autour des questions d'organisation de l'information et organisation des savoirs en musée, que je peux traiter d'une façon premiers éléments ou d'une façon approfondie. C'est pas un choix cosmétique ou pour le goût de la complexité de construire ce genre de choses. C'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus dans l'écriture d'un ouvrage universitaire. La tension entre la nécessaire interdisciplinarité et donc les différents niveaux d'approfondissement va se poser pour tout un tas de thématiques sur lesquelles on veut écrire des bouquins. Ce qui permet d'aboutir à des choses comme, ce qui donne également des problématiques en termes de compréhension par le lecteur de cette structuration-là. C'est-à-dire jusqu'à présent, un lecteur qui lisait un ouvrage universitaire, on n'a pas grand-chose à lui expliquer. A priori, les premières pages correspondaient au début de l'ouvrage et les dernières pages correspondaient à la fin de l'ouvrage. On a tous en tête le contrat de lecture qui dit qu'une note de bas de page renvoie vers une source extérieure, etc. On sait comment ça marche. Là, il faut trouver une façon d'expliquer à un lecteur qu'en fait, il peut lire l'ouvrage en ayant une approche centrée qu'autour des aspects, si je prends le premier point, des musées, et qu'il va trouver une partie des contenus, ça sera moins important que ce qu'il y a sur la partie communication, que sur la partie web, mais ça donnera une orientation spécifique à la façon dont il va le lire. Donc cette question de visualisation de la structure, c'est une question classique d'architecture de l'information, de savoir comment est-ce qu'on peut bien structurer une interface pour faire comprendre naturellement un usager, sans lui expliquer avec des longs paragraphes, que cet ouvrage-là, ce n'est pas l'ouvrage dont vous êtes le héros, mais vous pouvez quand même y entrer d'une façon différenciée. Le dernier point très rapide là-dessus, c'est la possibilité dans l'ouvrage de gérer les notes d'une façon transclusive. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un peu... ça nous emmènerait trop loin, mais cette approche de transclusion, c'est-à-dire d'intégrer dans un document un autre document au moment où on l'affiche, C'est pas une notion nouvelle, hein, ça date des années 60-70, mais appliqué ici sur la question des notes de bas de page, ça pose une problématique de savoir comment est-ce qu'on maîtrise le contenu que l'on veut faire remonter sous forme de notes de bas de page en sachant qu'il risque d'être produit ailleurs. Ce qui nous donne un ouvrage, par exemple le chapitre 1 de Discipline of Organizing, comprend une partie principale de contenus généraux, une part un peu réduite des contenus très orientés disciplinaires. Et dans ces contenus disciplinaires, je traite principalement des contenus des parties web et pas des aspects linguistiques qui sont traités à un autre endroit dans l'ouvrage. L'objectif, c'est bien de produire, de rassembler dans un seul et même objet documentaire des usages et des approches qui peuvent être variés. Au lieu de dire, je vais faire le bouquin Discipline of Organizing pour les nuls, Discipline of Organizing avancée, avancée 1, avancée 2, pour les musées, pour les galeries, pour les bibliothèques, pour je ne sais pas quoi, c'est de dire, il y a une richesse à garder tout ça ensemble, et cette richesse-là, si on ne veut pas que ça devienne quelque chose d'ingérable, il faut à ce moment-là proposer des voies d'accès qui soient très spécifiques. Ça pose donc la question de l'individualisation des dispositifs de consultation. Alors d'après Glushko, il y a 2048 façons d'entrer dans l'ouvrage, enfin de visualiser l'ouvrage. Entre l'approche disciplinaire et approfondie, on peut combiner les choses d'une façon extrêmement variée. Ça pose également deux autres questions, et qui ne sont pas résolues pour le moment, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, il est allé voir MIT Press avec ce projet-là en disant « j'aimerais bien continuer sur Discipline of Organizing, mais je veux faire ça ». Et eh bien, en fait, ben non, parce qu'à vendre, en fait, personne ne sait comment vendre ça. À la discipline approfondie, plus cher que Notion centrale, enfin, on voit que ça pose énormément de difficultés. Et dernier point, mais qui n'est pas spécifique, qui n'est pas spécifique à l'édition, mais qu'on voit émerger de façon forte ici, c'est quelle logique contributive. Je suis enseignant, je fais un cours basé sur ce bouquin. Je crée pour ça une étude de cas où je crée un chapitre nouveau parce que moi j'ai un cas très spécifique que je veux faire traiter à mes étudiants. Je rédige une partie que je soumets pour venir alimenter ce manuel-là. Si un jour il est vendu, comment ça marche quoi ? Je gagne de l'argent ou pas, ou c'est une contribution. Enfin, la partie contributive pose également problème, pas seulement sur l'aspect maîtrise des contenus, mais sur l'aspect quelle est la responsabilité juridique et économique qui est derrière ça. Alors le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est un bouquin que vous connaissez sûrement qui s'appelle « Pratique de l'édition numérique ». Donc c'est un bouquin qui est paru aux presses universitaires de Montréal il y a un an ou deux, en 2014, enfin deux ans, qui est dirigé par, c'est un bouquin qui a été dirigé par Marcello Vitali Rosati et Michael Sinatra. De prime abord, on pourrait se dire que c'est un bouquin comme les autres. Des chapitres, c'est un bouquin collaboratif, plusieurs auteurs, un auteur par chapitre, jusqu'ici tout va bien. Vous pouvez l'acheter en version papier. Il existe des versions papier que vous pouvez acheter. Alors il existe des versions papier, entre autres parce que le système de subvention et d'aide à l'édition universitaire québécois ou canadien ne concerne que les ouvrages imprimés. Et donc, il a fallu, pour bénéficier de subventions, que cet ouvrage soit imprimé à hauteur... Alors, je crois que le nombre minimal, ça doit être 200 ou 400 exemplaires. Donc, ils ont fait 400 exemplaires juste pour pouvoir rentrer dans cette logique-là. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que c'est un modèle... L'ensemble du contenu documentaire est non imprimable. Parce que c'est des contenus enrichis. Alors, ce n'est pas exhaustif, enfin, ce n'est pas original en soi. C'est-à-dire qu'on trouve des contenus textuels, mais également voir aussi qui constitue un réel approfondissement, c'est-à-dire que les contenus sont rapatriés dans l'ouvrage numérique et ne sont pas renvoyés à l'extérieur. Avec une variété des ressources, on a, je vous montrerai un exemple sur la page juste après, on a du texte, mais on a également de la référence biblio sous format Zotero pour une intégration directe dans une biblio. On a une émission de radio une vidéo qui vient... enrichir le contenu. Et donc, ça renverse la hiérarchie des formats qu'on avait jusqu'à présent et qui était évoquée tout au long de la journée, qui était l'ouvrage papier qui est décliné dans sa version numérique avec une forme de motésie de fait, puisque c'est bien d'un ouvrage papier qu'on parle. C'est un ouvrage qui, dans la version intégrale, donc, n'est accessible qu'en ligne et en accès libre. Alors, je vais revenir ensuite là-dessus. Donc, si je prends un exemple au hasard de ce bouquin, il se présente comme ça. Donc ça, c'est le chapitre 2. Donc, il a été écrit par Alain Mille, qui est un prof à Lyon 1. Donc vous avez le contenu comme un manuel standard. Et sur la gauche, vous avez des notes additionnelles qui sont pour le coup soit des notes de bas de page assez classiques, mais vous avez des contenus additionnels. Donc là, vous avez une vidéo de lui, vous avez une référence Zotero, vous avez un fichier audio que vous pouvez consulter. C'est pas du plus, ça apparaît dans le bouquin. C'est-à-dire que si je donne ce bouquin à lire à mes étudiants et que je leur donne l'URL, ils voient tout ça. Ça veut dire que, de fait, la question, ça amène deux questions. D'une part, ce contenu-là est riche, et donc sa lisibilité ou le contrat lecture qui est associé n'est pas forcément évidente à percevoir. La deuxième chose, c'est à quoi je sers moi ? À quoi je sers moi en tant qu'enseignant quand je trouve dans un ouvrage universitaire à la fois le prof, qui pourrait être une partie du prof, enfin une forme de prof, qui donne son cours en vidéo, la référence, les sources extérieures, on pourrait y ajouter un quiz, un exercice d'auto-évaluation, etc. Alors, ça ne me dérange pas, moi, c'est assez confortable. Je peux dire aux étudiants, ben voilà, bonne chance. On se voit dans 15 jours et on en parle. Classe inversée, c'est très à la mode. Ça marche très bien, mais en même temps, quelle est la valeur ajoutée, le contrôle que je peux avoir là-dessus ? Les questionnements qui sont soulevés par ce deuxième exemple, c'est encore une fois le modèle économique. C'est-à-dire qu'autant la version papier, bon, bah, c'est un standard, c'est un modèle classique, vous le commandez, vous le recevez par la poste, c'est facile. La version full web, avec tous les contenus, encore une fois, comment la vendre ? Pour deux raisons. La deuxième, c'est on pourrait imaginer avoir un système où vous arrivez sur le site et on vous dit merci d'entrer votre numéro de carte bancaire pour avoir accès à la ressource. Ça, oui. Ça me paraît peu probable dans le contexte des presses universitaires de Montréal. C'est pas vraiment la logique. Et puis, voilà. La question, c'est comment on intègre ça dans une collection également de bibliothèques. Quel objet documentaire la bibliothèque intègre dans sa ressource pour qu'un autre enseignant, par exemple, puisse l'adresser ou l'intégrer dans une bibliographie de cours ou en faire quelque autre usage que ce serait. Aujourd'hui, c'est un bouquin qui est en accès libre. Alors, il y a un choix idéologique, pas de problème derrière ça, mais c'est aussi une solution qui permet de ne pas se poser la question de savoir quelle logique économique on pourrait avoir si on essayait de le rentrer dans une logique commerciale. La deuxième question, c'est les usages par les étudiants. Alors, ça, c'est un point qui, à mon avis, va remonter quand même assez fortement à la surface dans les prochaines années. C'est qu'est-ce que font les étudiants avec tous ces trucs ? Est-ce qu'ils les consomment ou les utilisent ? Est-ce qu'ils font des copier-coller de tout et ils se recréent un support de TD derrière ? Est-ce qu'ils s'en servent d'une façon orienté, ils font un CTRL-F, le mot-clé qu'ils cherchent, et comme ça, ils lisent que les paragraphes qui les intéressent. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on a peu d'éléments sur quels usages réels en font les étudiants des ressources numériques qui leur sont adressées dans le cadre de leur pratique étudiante, leur métier d'étudiant. Comment est-ce qu'ils... Pour vous donner un exemple, on a testé du prêt de livres numériques il y a des années à Lyon 1, dans le cadre d'une vieille expérimentation, et en fait on a prêté des dispositifs, des liseuses, des tablettes, des choses comme ça, et on a demandé aux étudiants de voir ce qu'ils en pensaient, de nous dire ce qu'ils en pensaient. Et donc on s'attendait à ce qu'ils nous disent, alors les liseuses c'est mieux parce que les tablettes, rétroéclairage, etc. Et en fait le critère des étudiants, c'était plutôt les étudiants en informatique, leur critère de sélection des dispositifs pour lire du manuel, c'était Android ou iOS. Parce qu'il disait, de toute façon, moi, j'ai tout mon environnement de travail qui est sous Android. Toute ma machine tourne sous Android. Moi, je veux que du Android parce que je ne veux pas reconfigurer un compte sur un autre espace. Ou à l'inverse, les gens disaient, moi, j'ai un iPad, un iPhone, un et ainsi de suite. Et donc, moi, je veux que ça soit sur un environnement iOS parce que je vais rentrer mon compte et je vais voir remonter mes applis, mes références, mon compte Twitter, etc., etc. Quelle stabilité et concordance entre les versions ? Ça, c'est un point également qu'on va voir émerger si on prend les deux cas, donc surtout celui de Discipline of Organizing, dans lequel on a un apport de contenu permanent par des enseignants qui utilisent le support. Comment est-ce qu'on utilise une référence à la ressource et quelle stabilité lorsqu'on fait appel à des ressources extérieures? Aujourd'hui, le EPUB a ceci d'avantageux qui permet de figer d'une certaine façon, et ça a été dit ce matin, la nécessité à un moment ou à un autre de figer dans le temps une réflexion sur une thématique. C'est de mon point de vue, et c'est pour les manuels scolaires, ça a déjà été longuement traité par Alain Chopin notamment, sur la valeur politique d'un manuel scolaire, et voilà, régulièrement l'actualité se fait écho de cet enjeu-là. Pour le manuel universitaire, c'est la même chose, la notion de figer un état de la connaissance et en même temps d'exploiter des fonctionnalités de collaboration, d'interaction et de mise à jour. Pour conclure, et je serai presque dans les temps, je pense que au travers de ces deux exemples, il y a un certain nombre de questions qui concernent toute la filière qui me semblent émerger. Le premier, c'est intégrer les potentialités ce type de potentialité dans des projets éditoriaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est-à-dire que soit vous êtes un enseignant, chercheur passionné, dynamique au fait de toutes ces technologies et de tous ces éléments et vous lancez dans ce type de projet, quitte à ensuite aller voir un éditeur qui dira « mais c'est gentil, mais en fait moi je vais prendre juste le texte et je vais en faire un EPUB parce que sinon je ne sais pas quoi faire avec le reste ». Ça pose en creux d'ailleurs une question qui a été